France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
100 milliards d'euros, dont environ 40 venus de l'Europe. Le plan de relance qui sera présenté dans 10 jours se précise. Fin juillet, Bruno Le Maire avait indiqué que 30 milliards d'euros seraient consacrés à la transition écologique. Hier, il a annoncé que 3 milliards seraient dédiés au soutien au financement des entreprises, notamment des PME, et qu'un milliard aiderait à la relocalisation industrielle. Il est aussi question d'un volet compétences et d'un autre solidarité pour 20 milliards. Chacun. Notre objectif est clair, retrouver d'ici 2 ans le niveau d'activité économique que nous avions avant la crise, dit le ministre au journal Sud-Ouest. Mais entre-temps, il y aura eu de la casse, 275 plans sociaux déjà lancés entre début mars et le 19 juillet. De plus, l'incertitude qui plane toujours sur l'évolution de la situation sanitaire rend tout exercice de projection bien compliqué et les ménages qui le peuvent semblent décidés à épargner. Alors quel choix, quelle priorité pour quelle relance? Bonjour Patrick Artus.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis, membre du Cercle des économistes, auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir, publié en mai chez Odile Jacob. Alors, j'aurais dû ajouter à la liste de questions quelle reprise, Patrick Artus, parce que ce que l'on voit cet été, c'est que l'on continue de naviguer à vue. En juillet, on lisait que ça repartait plutôt plus vite que prévu. Et là, déjà, cette reprise ralentie. Alors, dans quelle situation sommes-nous?
Oui, je crois qu'on commence à avoir un relatif consensus sur l'idée que, au début, on sort assez vite du trou d'activité dans lequel le confinement avait plongé les économies. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine. Situation américaine un peu particulière, parce qu'aux États-Unis, la maladie dure beaucoup plus longtemps. Et que le vrai risque, c'est quelques mois où l'activité est forte, parce qu'on ressort du trou. Le vrai risque, c'est de rentrer ensuite dans une longue période de stagnation économique. C'est-à-dire qu'on aurait un profil assez bizarre. Vous savez, il y a eu au début de cette crise tout un débat. Est-ce que c'est U, L, W?
Oui.
En fait, c'est un profil assez curieux. Ça ressemble à une racine carrée pour vos auditeurs qui ont fait un peu de maths quand ils étaient jeunes.
Donc, certains disent vite, L d'oiseau.
Et après, c'est tout plat, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et donc le vrai sujet pour les gouvernements, c'est qu'il y a eu une première étape qui a été de faire en sorte qu'on puisse sortir du trou. Alors pour ça, il fallait éviter une avalanche de faillites. Donc on a aidé les entreprises, on a fait des crédits avec les garanties de l'État, on a fait des aides sectorielles, on a aidé les salariés à maintenir leurs revenus, on a généralisé le chômage partiel. Et puis ça, c'était la phase 1, et qui s'attaquait en fait au fait qu'il fallait pas que l'économie s'effondre et qu'elle ait la capacité de rebondir. Maintenant, on passe à la phase 2. Qui est finalement beaucoup plus compliqué, parce que dans la phase 1, il suffit de dépenser de l'argent public. Il suffit que l'État aide des entreprises, aide des ménages, finance le chômage partiel. Dans la phase 2, ça devient plus compliqué, parce qu'il faut réfléchir à un problème de fond qui est qu'est-ce qui fait qu'on risque d'avoir une économie complètement plate pendant plusieurs années. Et c'est une observation d'ailleurs qu'on a déjà faite, puisque après la grande crise des subprimes en 2008-2009, la croissance est devenue nettement plus faible durablement qu'avant la crise. Donc il y a un vrai sujet aussi pour économistes qui est qu'est-ce qui fait qu'après une violente crise, une violente récession, on a durablement moins de croissance qu'avant. Et il y a 3 raisons essentiellement. La première, c'est qu'on a perdu, on perd du capital. D'abord, les entreprises n'investissent pas. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont coupé leurs investissements. Et puis, il y a des entreprises qui disparaissent. Et puis, dans cette crise-ci, il y a quelque chose de plus méchant, qui est qu'il y a des secteurs d'activité qui allaient bien et qui, tout d'un coup, vont mal. Regardez le transport aérien, le tourisme, la construction d'avions. Et donc, dans ces secteurs, il y a une partie du capital qui n'a plus d'intérêt, quoi, qui n'est plus utilisable. Donc, on perd du capital. On perd du capital humain, parce qu'il y a des personnes qui vont être au chômage, et puis parce que il y a des compétences qui sont plus adaptées. Alors, je prends un exemple parmi, au hasard, si un salarié perd son emploi dans, je sais pas quoi, dans le transport aérien, il va falloir trouver un emploi là où on crée des emplois. Par exemple, aujourd'hui, dans les services informatiques, c'est pas complètement évident, quoi. Je veux dire, hein, il y a un problème de compétences, de qualifications. Donc, on perd du capital humain. Et puis, on fabrique ce qu'on appelle des entreprises zombies. C'est-à-dire des entreprises qui ont survécu parce qu'on les a aidées, qu'on leur a prêté, qu'elles ont eu des aides publiques, mais qui ont perdu tout leur dynamisme parce qu'elles ont trop de dettes. Et vous avez vu que c'est un débat qui ressort à nouveau ces jours-ci.
Absolument.
Et donc, comme elles ont trop de dettes, elles investissent pas, elles font pas de recherche, elles se développent pas, et donc, voilà. Donc, le vrai sujet pour la phase 2 des plans de relance, c'est de s'attaquer à tout ce qui peut faire que l'économie reste plate, et perd totalement son dynamisme.
Et on va reprendre ça, donc effectivement point par point, mais il y a un autre point important aussi, Patrick Artus, qu'on a vu ces derniers jours, c'est aussi la consommation qui, après être repartie très fort en sortie de confinement, marque le pas déjà. Il y a cette épargne qui s'accumule, on parle de 100 milliards d'euros d'épargne accumulée, donc c'est la fameuse question de la confiance. On préfère quand on en a les moyens, évidemment, mettre de côté en vue de lendemain possiblement compliqué.
Oui, mais c'est le même sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de stimuler, vous venez de le dire, il n'y a pas besoin de stimuler le revenu des ménages. Alors bien sûr, il y a toujours, on l'a tous dit depuis le début, notre système de protection sociale a des trous. Donc il y a des Français, puisqu'on parle de la France, qui n'ont pas été soutenus, parce qu'ils n'étaient pas dans les endroits où la protection sociale est efficace. Donc c'est vrai de certains artisans, des intérimaires, des intermittents, de certains indépendants. Mais en moyenne, il y a eu un très fort soutien du revenu, et en plus, il y a eu une énorme épargne forcée. Donc on a aujourd'hui une quantité d'argent accumulée par les Français, essentiellement dans les comptes en banque, qui est au moins de 100 milliards d'euros. Et donc, le problème de consommation, c'est pas un problème de ressources financières, puisque, à nouveau, il y a des Français en très grande difficulté, mais si vous prenez l'ensemble des Français, ils ont accumulé des réserves considérables en ne consommant pas. Et donc, vous avez parfaitement raison, mais c'est le même point que mon point précédent. Oui. Comme on peut se dire, oui, mais à partir de maintenant, l'économie va aller mal. Elle va être toute plate. Il y a des entreprises qui vont être en difficulté, des secteurs en difficulté. Dans une économie toute plate, on va pas créer d'emplois. Donc c'est bien cette question de l'économie toute plate qu'il faut traiter. Et si on arrive à passer le message que non, ce qu'on va faire dans les plans de soutien de l'économie va empêcher l'économie toute plate, eh bien on créera cette confiance qui permettra qu'on consomme. Mais il n'y a pas besoin de prendre des mesures de stimulation de la consommation. Ce n'est pas la peine de donner de l'argent aux ménages. Ils ont des comptes en banque qui débordent. Alors à nouveau, je parle en moyenne. Je sais bien qu'il y a plein de Français qui ont... Mais en moyenne, les comptes en banque débordent. Et donc, c'est pas une question de revenus ni de ressources. C'est une question de perspective économique à moyen terme. Et donc, ce qu'il faut bien traiter, c'est cette question de la perspective économique à moyen terme.
Et ça passe effectivement par le discours, par le fait de rassurer. En même temps, on voit que c'est quand même extrêmement compliqué, parce que Bruno Le Maire répète sur tous les tons que cette épargne doit circuler. Et en même temps, le discours aussi du gouvernement incite à la prudence, parce que sur le plan sanitaire, on nous prépare tout de même à une reprise sévère. Au niveau social, on nous a répété durant des semaines qu'il y aurait des centaines de milliers d'emplois détruits. Donc tout ça n'est pas très engageant, on voit pas trop pourquoi d'un coup on se mettrait à débloquer l'épargne.
Oui, alors vous voyez, le vrai sujet de cette crise, je crois que la complication, c'est ce que j'évoquais brièvement il y a quelques minutes, c'est que cette crise crée une très grande distorsion entre les secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs d'activité qui vont aller durablement mal, l'automobile probablement, le transport aérien, l'aéronautique, la distribution traditionnelle, le tourisme. Et puis il y a des secteurs d'activité qui vont déjà bien, la santé, la pharmacie, les services informatiques, la distribution en ligne, etc. S'ajoute à ça des chocs qui sont liés au comportement. Pour distribution, on en parlait, dans tous les pays, on voit que la distribution en ligne gagne des parts de marché. Le télétravail, on va moins se déplacer. Et puis, l'accélération des objectifs climatiques, qui n'a pas vraiment énormément de rapport avec cette crise, mais qui de fait arrive poussée par la crise. Donc on va plus vite dans la transition énergétique, ce qui évidemment accélère les problèmes d'un certain nombre de secteurs comme l'automobile, par exemple. Et donc, cette déformation qui fait qu'il y a des secteurs qui vont aller mal, et puis il y a des secteurs qui créent, qui essaient d'embaucher, est très compliqué à gérer. Ça crée une très grande complication dans la gestion de la crise. Parce que d'abord, il y a des secteurs qui vont mal et on ne le savait pas. Donc, par exemple, on a prêté à des entreprises dont on pensait qu'elles étaient en bonne santé, et en fait, tout d'un coup, elles sont en mauvaise santé.
Par exemple.
Ça, c'est une grande... par exemple, transport aérien,
oui. Hein,
ou la construction des avions, ou l'hôtellerie. Hein. Donc, de bonne foi, les marchés financiers ou les banques avaient prêté à ces entreprises, et tout d'un coup, elles vont mal, de façon qui était totalement non anticipée. Donc, ça crée des dettes en difficulté. Donc, ça affaiblit le secteur financier. Et puis, deuxième problème, on l'évoquait déjà, c'est pas les mêmes compétences, quoi. Hein. Si je suis licencié de chez Accor et qu'il faut que j'aille travailler chez Atos, c'est pas forcément les mêmes compétences. Et ce qu'il faudrait donc être capable de faire, d'une part, c'est traiter le problème de la dette. Hein, et ça, c'est pas facile. Hein. Alors, Bruno Le Maire annonce un peu d'argent pour les PME, mais enfin, il y a un énorme problème de dette dans les secteurs qui vont mal. Et ça, on sait pas bien le traiter. Et puis, deuxième sujet, il faudrait que notre système de formation professionnelle soit capable de requalifier rapidement, quand c'est nécessaire, des quantités considérables de personnes. Hein. Il s'agit de centaines de milliers de personnes, vous le disiez, qu'il va falloir requalifier. Donc, faut leur maintenir un revenu, les requalifier, parce qu'il y a des secteurs qui embauchent.
Oui.
Mais c'est pas forcément du tout les mêmes besoins en termes de qualification que là où se trouvaient les gens dans les secteurs qui aujourd'hui vont mal. Donc on a, par rapport à une crise traditionnelle, on a cette difficulté que ceux qui embauchent, c'est pas les mêmes que ceux qui licencient, vous voyez. Et donc, ça crée cette grande distorsion de l'économie et qui est très très compliquée à gérer. Et en particulier, on risque de submerger totalement notre capacité à requalifier, hein, à faire de la formation professionnelle.
Mais alors justement, là-dessus, puisque ça paraît en effet être un enjeu majeur, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que c'est à la hauteur? Dans le plan de relance, justement, il y a ce on nous dit, un volet compétences. On imagine que c'est de cela qu'il s'agit.
Oui, alors bien entendu, alors on n'a pas encore les détails du plan de relance. Il y a déjà eu une réforme de la formation professionnelle, hein, que Muriel Pénicaud avait mise en place au ministère du Travail, et qui va dans le bon sens, parce que elle rapproche les formations des besoins des entreprises, hein, ce qui vraiment va être absolument central. Mais il y a quand même un problème de capacité du système de formation professionnelle. Et puis cette réforme, elle est relativement récente, donc elle n'est pas vraiment encore totalement opérationnelle. Mais bien sûr, il y a un problème de compétences qu'il faut traiter. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un peu trop philosophique parce que c'est assez facile. Ce que je dis est assez facile à dire, mais à faire sur le terrain, plus compliqué, quoi. Je veux dire, il va falloir que des organismes de formation professionnelle soient capables de mettre en place très rapidement, là, en ce moment, les bonnes formations correspondant au secteur qui embauche, et qu'on aille effectivement récupérer les personnes qui ont besoin de ces formations, leur maintenir un revenu. Et vous voyez, c'est dans la pratique, c'est quand même très compliqué. Si vous voulez, on est quand même dans quelque chose d'assez général, qui d'ailleurs c'est assez intéressant, parce que c'était quand même une des idées de base du macronisme au début, qui est qu'il faut passer d'un système où on a la protection de l'emploi à un système où on a la protection de la personne. Alors, jusqu'à présent, on a utilisé la protection de l'emploi. Quand on met en place un énorme chômage partiel, on empêche que les emplois disparaissent. Sauf que les emplois chez Airbus ou chez Air France ou chez Accor, ils vont disparaître. Hein, ça a commencé, hein, et ça va, et vous le disiez, ça va continuer, y compris chez les sous-traitants, donc ça va être, donc on pourra pas maintenir la protection de l'emploi, on va pas maintenir fictivement des emplois payés par l'État dans des secteurs où l'activité a baissé. Et d'ailleurs, ça sert pas à grand chose. Il y a tout le débat aujourd'hui sur les baisses de salaire. Dans une entreprise dont on sait que durablement son chiffre d'affaires est plus bas, ça sert pas à grand chose de baisser les salaires.
Oui, hein. Bah alors justement. Donc, bon, allez-y.
Oui, je vous en prie.
Non, parce que justement, j'allais vous parler de ça, de cette de baisser les salaires, parce qu'effectivement, sauver l'emploi, c'est aussi à quelles conditions. Et je pense que c'est de cela que vous parlez. Mais on voit de plus en plus d'articles sur les accords de performance collective qui pourraient se multiplier. Donc, on rappelle que ce sont des accords rendus possibles par les ordonnances Macron de 2017 qui permettent de jouer sur le nombre d'heures travaillées ou la rémunération. Et par exemple, chez De Richbourg, qui est un sous-traitant d'Airbus, 163 salariés qui ont refusé un accord qui prévoyait une baisse de rémunération vont être licenciés. La lutte contre le chômage, Patrick Artus, se fait-elle aussi forcément par du moins-disant social?
La question est compliquée, parce que si on savait, quand on regarde une entreprise en difficulté, S'il s'agit d'une difficulté transitoire ou d'une difficulté durable, on saurait gérer. Si une entreprise a une mauvaise année et puis ensuite ça va bien, vous pouvez demander au, vous pouvez maintenir l'emploi, demander aux salariés des efforts pendant un an et demander à l'État des aides, du crédit pas cher, des subventions. Et c'est efficace, et c'est comme ça que les Allemands s'étaient très bien sortis de la crise de 2008-2009, hein, en utilisant massivement ce système, mais dans une situation où on savait, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, que finalement, il y avait un trou d'un an, quoi. Mais si vous êtes devant une entreprise qui va aller durablement très mal, elle a perdu 20-30% de son chiffre d'affaires jusqu'à la fin des temps, parce qu'on va plus prendre l'avion. Et donc là, on va pas maintenir les emplois en demandant des baisses de salaire et en mettant des subventions de l'État. Ça n'a aucun sens. Faut accepter l'idée que l'entreprise a besoin de 20 ou 30% de salariés en moins. Et c'est là qu'on bascule bien dans la question du basculement du soutien de l'emploi au soutien à la personne. C'est-à-dire qu'au lieu de maintenir les emplois dans cette entreprise, il faut que les personnes de cette entreprise qui perdent leur emploi gardent un revenu, soient requalifiées et soient ramenées à l'emploi. Hein, et donc c'est bien là qu'on bascule du système d'urgence où on soutient l'emploi au système intelligent de moyen terme où on soutient la personne et où on la requalifie. À nouveau, facile à dire, mais pas facile à faire, parce que soutenir l'emploi, c'est, on parlera peut-être tout à l'heure de politique monétaire, mais quand on a, quand on peut prendre le carnet de chèques de l'État et faire un nombre et faire des chèques sans arrêt, ben, on peut maintenir l'emploi. Il suffit que l'État paye les emplois, quoi. Hein, et si l'État paye les salaires, les entreprises gardent les emplois. Mais ça, vous pouvez le faire dans l'urgence à court terme avant d'y voir plus clair. Mais quand vous y voyez plus clair, vous pouvez pas maintenir cette politique-là. Donc, faut bien passer à une politique où on va s'occuper des personnes et pas du maintien absolu de l'emploi dans les entreprises lorsqu'on se convainc que c'est des secteurs qui vont être durablement plus faibles. Hein. Moi, je crois qu'il y aura des ruptures de comportement. C'est toujours difficile à dire, mais enfin, je vois bien dans les entreprises où ça que les gens ont moins envie de voyager. On a les clients lointains, on leur parle en vidéoconférence et ça va continuer. Donc il va y avoir des changements de comportement qui vont faire des changements durables de chiffre d'affaires dans certaines entreprises. Donc il va bien falloir adapter l'emploi dans ces entreprises. Donc voilà. Donc pour passer, faut avoir un système de requalification à la nordique, hein, puisque l'Europe du Nord sait faire ça très bien, qui est capable de travailler dans cette logique du soutien de la personne et plus dans la logique où on était du soutien de l'emploi.
Oui, d'autant que la question des voyages, il y a une question de choix et puis il y a aussi ce qu'on pourra tout simplement faire dans les mois...
Pour l'instant, mais même après, je pense que honnêtement, toutes les personnes, tous les chefs d'entreprise à qui j'en parle... ils disent tous la même chose, ils disent tous on voyageait trop. Finalement, on reste dans notre entreprise, on perd pas de temps à se déplacer, on va être beaucoup plus sélectif. Donc, puis regardez la transition énergétique. Enfin, je veux dire, on va acheter moins de voitures polluantes, moins de grosses voitures. Il y aura la consommation en ligne. On le voit en Chine aussi, qui a un peu d'avance sur nous. Enfin, donc il y aura en plus. En plus du choc, il y aura des ruptures de comportement durables, hein, très probablement.
Alors nous serons à 120% de dette publique à la fin de l'année, dit Bruno Le Maire dans son interview à Sud-Ouest hier. Il balaye un peu en disant que ce sera remboursé par la croissance et la bonne tenue des finances publiques. On a l'impression que la dette, le déficit, ça n'est plus vraiment un sujet. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ?
Alors, c'est une question très importante parce que qui est souvent assez mal comprise. C'est qu'est-ce qu'on a fait depuis le début de cette crise ? On a utilisé une technologie qui est celle du Japon depuis une vingtaine d'années, mais que ni l'Europe ni les États-Unis n'avaient jusqu'à présent utilisé, qui est de ne plus mettre de limite au déficit public, mais de faire financer de fait le déficit public par la création monétaire. Donc c'est très trompeur de parler de dette publique, hein, puisque qu'est-ce qui se passe ? Depuis le début de cette crise, l'État français, cette année, l'État français va faire un déficit public qui est à peu près 12% du PIB, probablement, et peut-être même un peu plus. Donc rappelez-vous qu'on n'avait normalement pas le droit de faire plus de 3, quoi, hein, c'est pour montrer l'ampleur de ce qu'on fait. Mais quand on calcule mécaniquement la dette publique, effectivement on trouve qu'elle va à 120-121% du PIB. Simplement c'est complètement trompeur, parce que l'État français, pour financer son déficit public, a émis des obligations, hein, de la dette, mais ces obligations ont été achetées par la Banque Centrale Européenne, qui les a achetées en payant, en créant de la monnaie. Et donc, vous pouvez oublier l'étape obligation, hein. En réalité, c'est juste un intermédiaire technique. En réalité, ce déficit public de 12% du PIB a été financé par la création monétaire. Donc, c'est exactement comme si, quand quelqu'un est au chômage partiel, la BCE lui donnait des billets pour financer le chômage partiel, quoi. C'est ça qu'on a fait, hein. Donc, on n'a pas de dette, hein. On a de la monnaie, hein. En réalité, les obligations détenues par l'État, enfin, émises par l'État français et sont dans le bilan de la BCE. Et la BCE, c'est pas un investisseur ordinaire, hein. Elle demande pas de taux d'intérêt élevé pour acheter la dette. Au contraire, les taux d'intérêt, la France s'endette à un taux d'intérêt négatif. Donc en réalité, on n'a pas de dette. Alors ça pose deux questions. Alors donc d'abord, il faut faire très attention au débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de sujet dette.
Hein. Oui.
On n'a pas augmenté le nombre de titres de dette de l'État français que doivent détenir les investisseurs normaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas la Banque Centrale Européenne, il n'a pas augmenté en réalité.
Hein, et Patrick Artus
a tout acheté.
Parce que justement, c'est un débat important et complexe. Oui. Je vous propose qu'on le poursuive après le journal de 8h et la chronique de Libération pour prendre le temps justement de nécessaire pour expliquer tout ça. Patrick Artus, chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis, on vous retrouve à 8h20.
France Culture, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Il est 8h20, nous retrouvons notre invité Patrick Artus, chef économiste et membre du comité exécutif de Natixis, membre du Cercle des économistes, auteur récemment de 40 ans d'austérité salariale, Comment en sortir, publié aux éditions Odile Jacob, suite de notre discussion autour de la politique de relance, alors que le gouvernement dévoile peu à peu le plan à 100 milliards d'euros, dont 40 venus de l'Europe, qui sera présenté dans une dizaine de jours. Juste avant le journal de 8h, Patrick Artus, nous parlions d'endettement, de déficit, et vous nous disiez si on creuse désormais sans fin comme ça le déficit, c'est parce que la BCE rachète de la dette en créant de la monnaie, c'est de la politique monétaire et ça n'est pas sans conséquence. Alors justement, expliquez-nous en quoi cette politique-là est potentiellement problématique à vos yeux.
Oui, alors dans un premier temps, on pourrait avoir l'impression qu'on a trouvé une martingale formidable, hein. On fait le déficit public qui est nécessaire à relancer l'économie, soutenir les secteurs en difficulté, etc. Ce déficit public nécessiterait une énorme émission de dette publique avec des difficultés pour placer cette dette. Donc il y aurait une hausse des taux d'intérêt, ça serait pas bon pour l'économie. Et pour éviter ça, vous venez de le rappeler, la BCE donc achète cette dette, c'est-à-dire que tout se passe comme si directement ce qu'on utilisait, c'était la création monétaire pour financer ce déficit public. Alors dans un premier temps, on peut avoir l'impression qu'on a trouvé une recette formidable. Chez les économistes, ça s'appelle la théorie monétaire moderne. C'est un groupe d'économistes américains qui défend l'idée qu'il faut faire ça. Donc on met le déficit public au niveau qu'il faut et ensuite on le finance par la création de monnaie pour que ça ne fasse pas monter les taux d'intérêt. Alors est-ce que on a trouvé cette formidable solution à tous nos problèmes? Ben, il faut se poser la question qui est que peut-être on se pose pas assez et que sans doute la BCE ne se pose pas assez, qui est quel est le coût de cette politique. Je veux dire, on peut pas croire qu'il n'y a pas de coût, quoi. Je veux dire, sinon on a été trop bête de pas le faire plus tôt, hein. Et ce coût, c'est évidemment que quand on inonde le monde de monnaie, dans un premier temps, ce qu'on fabrique, c'est des bulles sur les prix des actifs, hein, on l'a déjà vu souvent dans le passé, et ça va recommencer, et ça a commencé. Regardez ce qui se passe sur les actions des sociétés technologiques américaines, regardez ce qui se passe déjà sur les prix de l'immobilier, hein, dont tout le monde pensait qu'il baisserait, ben non, il monte.
On va vers une bulle immobilière, vous pensez?
Oui, on va avoir une bulle immobilière, c'est absolument inévitable, on va avoir une bulle immobilière, on a injecté dans l'économie mondiale des milliers de milliards d'euros, hein, de monnaie, qui ne va pas rester stocké sous forme de monnaie. À un certain moment, cette monnaie va être réinvestie dans des actions. Alors, Ça, c'est le premier phénomène. Et la bulle immobilière, d'un point de vue social, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Hein, faire partir les classes moyennes des centres-villes, rendre le logement difficile pour les jeunes. C'est quelque chose qui est horrible, une bulle immobilière. Puis en plus, c'est dangereux financièrement pour les banques. Enfin, ça a toujours fabriqué des crises. Et puis, le risque après, sur lequel les économistes commencent à s'interroger, qui est un risque plus lointain et plus compliqué, c'est le risque de défiance vis-à-vis de la monnaie. Mmh. C'est-à-dire, à un certain moment, les individus se disent « Oula, la Banque centrale a créé trop de monnaie, donc je ne crois plus dans la valeur de la monnaie, hein, je perds confiance dans la monnaie, et donc j'essaie de mettre mes réserves dans autre chose que dans les monnaies officielles. » Et alors, vous voyez déjà le prix de l'or qui monte, le prix du bitcoin qui monte. Donc, il y a déjà ce début de détournement. Hein. On se dit, mais faut pas garder de la monnaie parce qu'il y en a trop et ça vaudra plus rien. Donc, si vous voulez, on est devant un risque qu'on peut appeler de façon plus globale, le risque de perte de valeur de la monnaie. Mmh. Un risque un peu... Le premier, c'est bah, par exemple qu'il faille... plus de monnaie pour acheter un appartement, hein, c'est bien une perte de valeur de la monnaie. On peut dire que c'est la hausse des prix de l'immobilier, mais la réalité, c'est la perte de la valeur de la monnaie. Avec la même monnaie, on peut moins acheter de logement. Et puis le second risque, c'est vraiment la défiance devant la monnaie. Alors tous ces risques-là, comme c'est des risques lointains, un peu hypothétiques, évidemment, aujourd'hui, on les ignore, hein, et on se concentre sur la solution de facilité, qui est qu'on peut faire 12% du PIB de déficit public sans aucune difficulté en gardant des taux d'intérêt négatifs. Hein. Mais il faut pas ignorer les risques lointains. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs du point de vue de la distribution, des effets redistributifs de tout ça? Quand on a une politique monétaire extrêmement expansionniste, évidemment, les taux d'intérêt sont très bas. Donc les taux d'intérêt très bas, c'est plutôt bon du point de vue redistributif, parce que ça rend moins cher de s'endetter. Hein. Donc les jeunes ou les classes moyennes qui s'endettent payent moins cher. Mais vous avez tous ces effets de prix d'actifs. Hein. Les logements valent plus cher, et ça c'est mauvais du point de vue redistributif. Oui, ça enrichit ceux qui ont déjà des actifs. Les actionnaires d'Apple et les gens qui ont des logements s'enrichissent au détriment des jeunes qui doivent épargner pour leurs vieux jours et qui doivent acheter un logement. Donc ces effets redistributifs pas du tout sympathiques de la création monétaire, souvent on les regarde pas.
Mais alors justement, Patrick Artus, vous parlez des jeunes et j'aimerais que vous nous expliquiez ça aussi, parce que donc si cette politique monétaire là, vous pensez qu'elle est dangereuse, alors quelle autre possibilité on a? Parce que vous avez écrit récemment que sur la dette publique, justement, quelle que soit la solution utilisée, ce sont les jeunes qui vont payer.
Oui,
donc il n'y a pas de bonne solution.
Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix. Je plaide juste pour qu'on soit pas aveugle. On avait cette crise qui était une crise qui était difficile à prévoir et voilà, on pouvait pas laisser 30 ou 50% des entreprises faire faillite. Hein. Donc évidemment, il fallait faire un déficit public sans compter l'argent public. Hein. C'est quoi qu'il en coûte de Macron.
Hein. Oui.
Bon, ensuite, on pouvait pas financer ce déficit public par de l'endettement au sens traditionnel, parce que les investisseurs n'auraient pas avalé la quantité de dette que les États auraient émis. Donc on était absolument contraint de financer cette déficit public par la monnaie. Donc à ce stade, il n'y avait pas le choix, quoi. Hein. Donc la question, c'est plutôt l'avenir, c'est-à-dire est-ce qu'il faut pas se dire que cette politique va rester là jusqu'à la fin des temps? Ben, peut-être qu'elle va rester d'ailleurs, parce que peut-être que les banques centrales, regardez le Japon, ça fait 20 ans que le Japon fait ça, hein, un déficit public énorme et continuel financé par la création de monnaie, peut-être qu'on va devenir comme le Japon et qu'on va rentrer dans cette solution de facilité. Je ne crois pas. Hein, donc la question, c'est à un certain moment, la réalité va revenir, qui est que la Banque Centrale Européenne arrêtera sa création monétaire. Et donc, les déficits d'aujourd'hui resteront financés par la monnaie, mais ceux de demain devront être financés normalement. Et puis, il y a ce dont on parlait avant, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas croire que en finance, on parle du free lunch, hein, le repas gratuit, le truc qui n'a que des avantages et pas de coûts. Ben, je ne crois pas que cette politique soit un free lunch. Je crois qu'on va payer un coût qui va être de l'instabilité financière, Regardez aussi ce que ça fait sur les pays émergents. On en parle assez peu parce qu'on est concentré sur nos problèmes. Mmh. Cette énorme quantité de monnaie fabrique des flux de capitaux qui, évidemment, causaient plein de liquidités. Hein. Et puis, de temps en temps, ça va dans les émergents. De temps en temps, ça revient des émergents. Donc, ça déstabilise complètement les économies des émergents. Donc, il y a un prix en instabilité financière à cette politique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas le faire. Vous avez raison. Mais ça veut dire qu'il faut savoir qu'on aura un prix à payer de cette politique.
Et pour terminer, parce qu'il nous reste déjà vraiment plus beaucoup de temps, Patrick Artus, on l'entend très bien dans ce que vous dites que voilà, tous ceux qui rêvent d'un changement de modèle, vous dites au contraire, cette crise va durcir le capitalisme. Je voudrais juste terminer avec ça.
Alors évidemment, on a beaucoup parlé du monde d'après. Mmh. Le monde d'après, il était plus écologique, il partageait mieux les revenus, il était moins inégalitaire. On avait un capitalisme inclusif qui s'occupait de tout le monde, hein, des salariés, des territoires, de l'environnement. Non, mais c'est pas spontanément, c'est pas du tout ça qui va se passer. Chaque fois que les entreprises dans le capitalisme néolibéral sont en difficulté, elles se sortent des difficultés et elles y arrivent très vite, hein, à chaque crise, avec toujours les mêmes techniques. La technique, c'est de baisser ses coûts. Hein, pour rétablir les profits pour l'actionnaire, la baisse des coûts, ça passe par des délocalisations et ça passe par la baisse des salaires. Donc, mon dernier livre, d'ailleurs, parle que de ça.
Oui.
Donc, spontanément, le capitalisme néolibéral aujourd'hui, il va délocaliser davantage. Regardez que ça commence à se produire. Hein, et il va faire plus d'austérité salariale. C'est-à-dire qu'on va avoir l'inverse. Le mouvement spontané du capitalisme, ça va être l'inverse du monde d'après dont on a beaucoup parlé.
Eh bien,
évidemment, les politiques publiques peuvent intervenir. Hein, on peut intervenir pour durcir les règles environnementales, mettre des politiques qui favorisent des relocalisations.
Et c'est ce qui est prévu, en tout cas.
Faire de l'intéressement, de la participation, etc. Mais voilà. Spontanément, le capitalisme va durcir ce contre quoi on a protesté.
Hein,
ouais. C'est son objectif reste le même, qui est de restaurer le plus vite possible la rentabilité pour l'actionnaire.
Et on verra ce qu'il en est des relocalisations et de la croissance verte, de l'industrie verte, qui donc sont des objectifs du plan de relance qui sera présenté dans une dizaine de jours. Merci beaucoup Patrick Artus, chef économiste de Natixis, membre du Cercle des économistes. Et votre dernier livre, en effet, 40 ans d'austérité salariale, comment en sortir, est publié aux éditions Odile Jacob. Merci à vous, 8h30.